On ne pense jamais tout seul. On pense avec d'autres, les morts et les vivants.
En fait, curieusement, pour écouter, il faut voir, il faut regarder. Et peut-être l'inverse aussi.
Par les temps qui courent, Mathilde Wagman.
Emmanuel Huyne, vous faisiez il y a 25 ans vos débuts comme chorégraphe en créant MUA, un solo dansé par vous-même qui faisait vivre à tous ceux qui ont pu le voir une expérience sensorielle très forte. Plongé dans un noir total pendant une grande partie de la représentation, on pouvait soudain comme spectateur cesser d'attendre d'avoir quelque chose à se mettre sous les yeux pour se rendre disponible à ce qui se passait aussi bien en nous que devant et autour de nous. Votre dernier solo, Nuée, d'une certaine façon prolonge ce geste inaugural nuée, comme la volute de fumée qui flotte sur le plateau lorsque le spectacle commence, comme les nuées d'oiseaux et comme le nuage qui évoquait aussi le nom de votre père, disparu en 2018 et dont la perte a été au départ de cette nouvelle création. Un spectacle qui met en jeu les phrases, les sons, les ambiances qui vous constituent et qui travaille l'image que l'on se construit de soi, dont les contours sont flous, mouvants, comme l'est peut-être par essence la danse elle-même. Bonsoir Emmanuel Huyne.
Bonsoir Mathilde.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Merci pour de parler l'invitation.
Pour parler de ce spectacle donc Nuée, qui est à voir demain et après-demain à la Maison de la Musique de Nanterre et sera ensuite en tournée un peu partout en France. Spectacle qui fait écho, donc qui prolonge d'une certaine façon MUA, qu'on a pu découvrir ou redécouvrir, notamment au Centre National de la Danse à Pantin, où vous le dansiez la semaine dernière. Les deux spectacles sont présentés ensemble dans le cadre du Festival d'automne. De quelle manière est-ce qu'ils se répondent pour vous ? Est-ce que c'est juste de dire que le second est une sorte de prolongement du premier ?
C'est sans doute pas un prolongement, c'est un autre rendez-vous qui a abouti à un solo, mais un solo c'est toujours très accompagné de collaborateurs, sinon il ne se passe rien en fait, sinon ça reste autour de soi, et donc là les collaborateurs prolongent quelque chose et rendent la chose entendable et visible ou invisible. Ce sont deux solis, je n'en ai pas fait d'autres. C'est pour ça que j'ai pu proposer qu'ils soient mis en rapport. Je me suis aperçue que c'était deux pièces de crise. Le deuxième, effectivement, lié à la perte de mon père. Et puis, ils m'ont amené tous les deux dans ce pays qui est aussi le mien, enfin, en partie, puisque mon père était vietnamien et ma mère française. Et donc, je dirais, la similarité de mes réactions d'aller, finalement, d'avoir besoin de retourner ou d'aller pour la première fois, donc en 1994, pour faire MUA en 95, il m'a semblé, en fait, logique, mais aussi dans le dialogue avec certains professionnels à qui je m'adressais à propos de Nuée, et je reparlais de MUA en disant « il y a eu une première fois ». Et quand je suis retournée cette troisième fois, parce qu'il y a eu une deuxième fois aussi avec notre papa, eh bien, je suis allée, quand je parlais du voyage que j'ai fait en février 2020, je parlais du fait que je retournais sur les traces de mon père, mais aussi sur les traces de MUA. Donc, il y a une sorte de mise en abîme que je n'ai pas décidée, en fait, mais j'ai senti que je le faisais, comme les voyages importants de sa vie. On se dit, ah tiens, c'était comment ? Qu'est-ce que j'ai senti ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que je sens ?
Votre père, donc, qui était né au Vietnam, enfin, dans l'Inde, ce qui était à l'époque l'Indochine française, qui est arrivé en France, je crois, au tout début des années 50, hein, ouais. Peu avant l'indépendance.
Oui, l'indépendance, en 75. Donc, à cette époque, quand il part, le Vietnam n'est pas encore... Il y a le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud, mais il est sous colonie française. Il va passer ensuite... après les accords de Genève sous colonie américaine, et l'indépendance, c'est cette rébellion du peuple vietnamien contre les Français, envers les Français, mais qui étaient partis, puis après envers les Américains et cette longue guerre américaine. Donc 75, c'est effectivement le moment où on se rend indépendant et où l'entièreté du pays devient communiste.
Ce premier, il y a eu donc, vous le disiez, hein, plusieurs voyages. Le tout premier qui était, je crois, la première fois que vous vous rendiez vous-même au Vietnam, juste avant la création de MUA. Et puis, en février 2020, donc ce troisième voyage en réalité au Vietnam, cette fois-ci après la disparition de votre père. De quelle façon, très concrètement, est-ce que ces voyages, ils ont nourri après l'invention, la création de ces deux spectacles ?
En fait, quand on fait des voyages, alors à chaque fois j'ai demandé des aides, des bourses pour pouvoir aller étudier quelque chose ou aller m'immerger. Je dirais que de ce point de vue, le système d'aide aux artistes français est juste extraordinaire, qu'on puisse avoir un peu d'argent pour partir, voyager et s'immerger, c'est quand même un luxe absolu.
Et la première fois, c'était avec la Villa Médicis, je crois.
Voilà, la première fois, en 94, c'est la Villa Médicis hors les murs, celle qui nous permet de voyager. On n'est donc pas au Palais Medici à Rome, où je n'ai jamais eu envie, effectivement. Enfin, voilà, il faut être lié à, peut-être à une recherche italienne, je ne sais pas exactement. Mais, la première fois, c'est la Villa Médicis hors les murs. Et puis la deuxième fois, c'est un programme qui a été créé par Jean-Philippe Rousse, qui était attaché culturel à Ho Chi Minh les années passées, je pense 18, 19 ou 17, ça je ne sais pas bien. Mais il a mis en place ce qui s'est appelé la Villa Saigon. Et donc avec la Villa Saigon, j'ai pu aussi séjourner. Et comment ça se fait qu'un pays puisse, on va dire, nourrir ? Bon, mais c'est autant le pays, c'est le déplacement lui-même qu'occasionne le voyage. C'est bien sûr la géographie qui nous entoure et nous transforme dans qui nous fait voir les choses sans doute différemment, avec recul ou avec intensité. Et puis je dirais que pour ces deux voyages, et c'est ce que je ressens beaucoup d'ennuyé, c'est à la fois un rendez-vous avec l'histoire, la géographie et moi-même.
Moi, j'ai vu MUA pour la première fois la semaine dernière, rejouer une pièce créée il y a plus de 20 ans, à vos tout débuts de chorégraphe, hein, puisque je l'ai dit, c'était votre toute première pièce comme chorégraphe. C'est, j'imagine, une expérience un peu particulière. Quel effet ça a produit sur vous de vous réemparer de ce spectacle ?
Alors, cette pièce, donc, dans laquelle Yves Godin, l'éclairagiste, et Casper Teplitz ont été extrêmement importants dans sa formulation, on n'a jamais cessé de la jouer. Alors, il se trouve que, quand même, là, ça faisait 5 ans qu'on ne l'avait pas joué, qui est sans doute la durée maximale. Et on se redisait, bon, à la fois la joie de se retrouver dans ce travail, parce que sinon on se fréquente par ailleurs dans certains autres travaux, et on se disait aussi, tiens, on ne va pas danser MUA ou faire la lumière de MUA ou faire la musique de MUA, faire le son de MUA, mais on va faire MUA. Ça, c'était Casper et Yves disaient qu'ils le faisaient aussi comme ça. Donc, en fait, avec ce projet qui ne s'est jamais interrompu, pour moi en tout cas, et je pense que pour eux aussi, ça fonctionne comme une pièce étalon. On en était à nos débuts. Tous plus ou moins, tous les trois, et ça a marqué une certaine attitude manifeste en ce qui me concerne, par exemple, de dire oui à certaines choses et de vouloir nettoyer certaines choses, de dire ça, pour moi-même, je ne veux plus. Il y avait le pour moi-même, je ne veux plus certaines choses de la sphère privée, c'est un moment où j'ai divorcé. Et puis, en tant qu'interprète, ça a été aussi le moment où je me suis dit, je dois arrêter un moment au moins toutes ces projections des autres, des chorégraphes sur moi, pour savoir ce que le jeu J.E. a à dire par lui-même. Voilà, ça va avec ce divorce, en fait, aussi. Et puis, je servais sur les scènes avec grand plaisir, pendant 5 ou 6 ans, beaucoup de pièces où il y avait de la musique, de la lumière, des costumes, des artifices, des décors, beaucoup de choses qui finissaient pour moi par étouffer et recouvrir complètement ce qu'était la danse ou ce qu'il fallait encore chercher. Enfin, voilà, je comprenais plus au bout d'un moment. Pourtant, j'aimais beaucoup servir, danser les projets des autres, la technique, enfin, tout ça me plaisait. Ça m'arrivait beaucoup d'avoir une semaine où je faisais une pièce d'Hervé Robe, une pièce de Nathalie Collantès, une pièce de Marceline Dartigues. Et cette l'habilité à changer de corps et d'univers me plaisait beaucoup. Mais c'est vrai qu'en avançant, et le fait d'enchaîner les choses, c'est une crise totalement normale chez les interprètes, c'est Alors s'ils sont pas là à me dire ce que j'ai à faire, je fais quoi? Et c'est venu aussi de pair avec le fait que, m'étant intéressée beaucoup au Judson Church Theater, donc ce laboratoire expérimental des années 60 aux États-Unis, où les danseurs, les chorégraphes, les poètes, les musiciens, les artistes visuels, les architectes ont été ensemble pour, d'une certaine façon, eux-mêmes titiller ce qui était les prérequis de chaque discipline, au point d'ailleurs de faire s'effondrer certaines frontières. Je me suis dit, mais voilà, cette période où on enlève et où on va chercher le maigre de chaque chose, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ou comment ça se fait qu'on en a arrivé à une telle choucroute, à une telle...
À ajouter tellement de
mais
choses.
Mais oui, pourquoi cet ajout? D'accord, on a de l'argent, d'accord, vive les années longues, d'accord, c'est génial, on a un certain confort, et c'était magnifique d'ailleurs pour pouvoir imaginer, tant mieux, mais où est le projet? Je n'entendais plus de projet.
Je pense que tout ce que les artistes produisent viennent de la source de l'inconscient. C'est certainement une évidence. Donc il faut développer cette faculté chez moi. Ça fait maintenant 60 ans que j'essaye de la développer, mais il faut énormément la développer chez les acteurs, que ce soit des acteurs affirmés ou que ce soit de jeunes élèves dans des cours. Il faut leur apprendre que le silence n'est pas un arrêt du langage, que c'est une forme de langage en soi. C'est pareil pour la lumière, c'est-à-dire que la lumière n'a de sens que par rapport à l'ombre. Je ne pense pas que le spectacle soit toujours dans l'ombre. Il y a des moments d'éclat et il y a des moments de lumière. Ce que je cherche, c'est un équilibre entre les contraires, comme j'ai dit. Donc un équilibre entre l'obscurité, entre le sombre et la lumière ou la lumière faible. Et j'ai observé empiriquement que si on éclaire moins l'acteur, on n'est pas dérangé par quelqu'un qui est en train de nous montrer comment il fait son métier. L'obscurité ouvre les portes toutes grandes à la rêverie maximale, à la rêverie de l'acteur et après, naturellement, à la rêverie des spectateurs. Et c'est ça qui est important, c'est rêver.
Le metteur en scène Claude Régis, vous l'aviez reconnu, Emmanuel Huyne, au micro de Frédéric Mitterrand en 2013 sur France Inter à propos de son travail à la fois sur les silences et sur l'obscurité. L'obscurité ouvre les portes pour la rêverie maximale, dit-il. Ça pourrait presque être un sous-titre pour ces deux spectacles, Mua et Nuée, je trouve. Qu'en pensez-vous?
Oui, même si je pense que la place de l'obscurité ou du très sombre... On n'est pas dans l'obscurité et dans Nuée, on est dans un... ou alors on est dans l'obscurité et dans Mua, on est dans le noir, en fait.
C'est différent.
Oui, c'est différent. Il y avait vraiment dans le projet de Mua de se mettre... je voulais qu'il y ait la même expérience pour moi que pour le spectateur. C'est-à-dire qu'on soit vraiment à égalité de ce point de vue. J'avais été influencée en ce sens... par l'exposition, enfin le parcours que j'avais fait, que Michel Rayac avait organisé à la Vidéothèque, je crois, de Paris, en 1994, on était mené de pièce en pièce, on traversait une rue, on mangeait, et on était guidé par des voix, donc par des vrais aveugles. Et donc je m'étais dit, mais comment faire pour faire ressentir aussi intensément la danse, comme je viens de le vivre, avec par exemple la voix, ou le son d'une voiture qui était censée traverser, ou le goût qui était... Donc bien sûr, en inhibant un sens, les autres grandissent. Et il me semblait que c'était la très bonne métaphore pour dire aussi comment j'avais ressenti le Vietnam. C'est-à-dire que quand on est dans le noir, beaucoup de gens d'ailleurs sont gênés parce qu'ils ressentent plus leurs voisins. Et puis notre propre respiration devient énorme. Et puis tout devient incroyablement important. Et donc dans ce premier voyage au Vietnam où j'ai vraiment eu le sentiment, j'y allais pour danser et apprendre, je ne parlais pas la langue, Donc il y avait toute une partie de moi qui ne pouvait communiquer, mais je ressentais. Je dormais, je mangeais, je transpirais, j'étais dans l'humidité de ce pays. Et donc j'avais aussi un sentiment de très forte reconnaissance, faciale certes, parce que je ressemble quand même aux personnes, même si je suis un peu trop grande, ou j'ai des pieds plus grands, ou je suis trop baraquée pour une vraie vietnamienne. Mais voilà, tout d'un coup, mon visage était quand même reconnu, même si, c'est le problème des métisses, j'étais un peu trop aussi, donc on voyait bien que j'étais pas complètement. Mais néanmoins, j'ai eu un sentiment de reconnaissance et d'unification de mon être. Et le noir était quelque chose qui pouvait métaphoriser cette situation où on ne comprend pas, mais où on ressent tout. Et l'immersion égalitaire entre le public et moi-même me semblait important. Et je pense que si je glisse vers Nuée, avec Katie Olive, donc qui fait la scénographie de lumière et qui a construit l'espace de Nuée, c'est à la fois la brume, la vapeur, le brouillard, la petite fumée qui se répand au début. Katie a eu l'idée de former le nuage, finalement le nuage inaugural ou du père, ou aussi dans ce pays, eh bien cette humidité qui baigne et que moi j'aime énormément, dans laquelle je me sens très bien pour danser, pour vivre. Finalement cette nimbe inaugurale qu'elle a proposée fait que on est dans un ton de gris, d'opacité, et que elle dit souvent il y a eu plein de façons, j'ai cherché plein de façons de te faire disparaître et apparaître dans des nuances différentes. Alors, de gris plus que de noir, même si le début de Nuée, c'est quand même une expérience de très sombre, de noir, avec un texte un texte de Gilles Amalvi qui finalement met en scène les diverses adresses qu'a ce solo. Au pays, au père, à l'amant et à ma propre physicalité.
Tout ce que les artistes produisent vient de la source de l'inconscient, disait aussi Claude Régis dans cet extrait. Pour ce qui concerne la création de vos mouvements dansés proprement dit dans Nuée, j'ai lu que vous aviez recours à une méthode que vous appelez l'impro-mémoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, et je vais d'abord commencer par, je ne peux pas ne pas faire ça toujours, d'ailleurs, même quand j'enseigne, d'où ça vient. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai inventé ça. Le Quatuor Knust en 2000, qui était composé de 4 notateurs labanes qui tentaient de nous faire, qui nous ont appris le rôle du faune et de la grande nymphe dans le prélude à l'après-midi d'un faune de Nijinsky. Ce quatuor de notateurs, pour essayer de nous pluguer au faune, sans qu'on ne l'ait jamais connu, c'est-à-dire avant qu'on le danse, avant qu'il ne nous l'apprenne, avant que il nous fasse toutes les corrections de ce, enfin voilà, avant qu'on apprenne cette partition, qu'est-ce que notre inconscient de danseur ou conscient de danseur des années 2000, on était tous des chorégraphes, donc il y avait Jean-Christophe Paré, Loïc Touzé, Boris Charmatz, Jennifer Lacy, Cécile Proust et moi-même. Qu'est-ce que ces artistes qui étaient en prise avec leur travail d'artiste et aussi avec beaucoup d'autres chorégraphes qui les employaient comme interprètes, quelle image, quel imaginaire en avait du faune? Donc, je crois d'ailleurs eux qu'ils ont plutôt appelé ça la mémoire plaisir, et donc il fallait essayer d'associer du mouvement et de la parole. Et je pense que ça nous a tous, ça a tous fait un levier énorme. Mmh. Et moi, je me suis non pas jamais arrêtée de parler, parce que je ne parle pas si souvent que ça sur scène, mais ça m'arrive. Et surtout, cette méthode ou cette façon de pouvoir entrer par la double porte du corps et d'une parole qui ne peut pas vraiment se contrôler. En fait, ce que j'ai beaucoup ressenti dans Nuée, donc maintenant je l'ai pratiqué depuis 20 ans pour des raisons différentes, eh bien il me semble un peu comme en analyse que la façon dont le verbe, le mot, comment le corps peut le délivrer, comment il peut rentrer dans le corps, comment ce qui est compressé en nous peut sortir à la faveur d'un mouvement. Moi, je me sens effectivement beaucoup plus libre, pas parce que je suis en train de danser, mais ça vient. Et donc, le jeu est de laisser faire et de auto-guider quelque chose. Et donc, si tout d'un coup, je suis en train, je sais pas, de tambouriner avec mes mollets, l'association d'idées et de corps, c'est peut-être effectivement une mitraillette. Et il se trouve qu'à Besançon, il y a plus d'un an, avec Gilles Amalvi, on faisait les premières sessions, je me mets à prendre mon pied, littéralement, je veux dire, je saisis mon mollet, et je tends ma jambe, et je commence à faire... Et c'est venu non pas parce que je me suis dit « alors, je vais parler de la guerre », parce que j'avais très envie de parler de la guerre, mais je ne savais pas comment le faire. Pas d'une façon d'historienne, pas d'une façon de haine contre la colonisation. Enfin, je ne savais pas quelle... Mais j'avais quand même des choses à dire, parce que je pense que la guerre a résonné très fortement dans le Berry chez nous, dans notre propre famille.
Il y a parce que vous avez grandi dans le Berry.
Qui venait... très physiquement de la guerre du Vietnam. Et donc, je pense que d'être capable de... Enfin, voilà, c'est les outils de la danse. De saisir sa jambe et tout d'un coup de se dire... C'est en la saisissant que tout d'un coup... Ah mais oui, c'est la position d'une mitraillette. Mmh. C'est parce qu'on fait les gestes et que tout d'un coup, je peux faire... Et que oui. Donc, c'est une chose... Je le donne parce qu'on l'a gardé. Gilles l'a trouvé vraiment tellement important.
Oui, c'est un geste très fort du spectacle.
Et je pense que cette incursion, le corps est fait de langage et ce sont des façons, l'impro mémoire ou l'impro plaisir ou l'impro déplaisir, c'est une façon de pouvoir rentrer aussi dans son inconscient de corps et d'esprit.
Vous écoutez Par les temps qui courent, nous sommes ce soir en compagnie de la chorégraphe Emmanuelle Huyn, avec qui nous parlons de sa dernière création, un spectacle qui s'appelle Nuée et dont on entend là un extrait de la partition sonore du spectacle créé par le compositeur Pierre-Yves Massé, ces sons qui évoquent des chants d'oiseaux, des sonorités venues d'ailleurs et qui travaillent, semble-t-il, avec une grande variété de matériaux sonores. Comment est-ce que vous l'avez travaillé, imaginé avec lui, cette partition sonore ?
Alors, ce sont surtout, je dirais, ces propositions qui sont présentes. Quand on travaille avec quelqu'un, on émet des sources et des désirs, et puis après, c'est le bonheur de travailler avec d'autres artistes. On découvre aussi ce qu'il envisage. Et je savais, en m'adressant à Pierre-Yves, qu'il travaille aussi beaucoup avec l'archive ou avec des sons prélevés, pas seulement, mais parfois. Et j'étais revenue du Vietnam avec des berceuses que j'avais fait enregistrer ou que j'avais enregistrées avec la jeune femme qui a tenté de m'apprendre un peu plus de vietnamien que 25 ans avant. Ça n'a pas beaucoup marché. Et on les a enregistrées parce qu'elles n'étaient pas bien enregistrées. Mais pourquoi les berceuses ? Parce que dans notre papa nous a donc laissé un livre qui s'appelle Nuages bleus, que j'avais aussi amené.
Nuage bleu qui est aussi le sens de son nom, je crois.
C'est ça, ouais. Nuage bleu, donc c'est le titre de son livre, mais c'est son prénom, Tan Van. Et il raconte dans ce livre donc qu'il laisse à ses 6 enfants pour essayer d'en dire plus que durant sa vie sur sa vie au Vietnam et sur les quelques années avant que nous n'arrivions enfants. Il disait qu'il y a eu les injonctions de son papa pour lui expliquer pourquoi il allait partir, entre 14 et 16 ans, de l'écouter tous les jours... allongé sur son lit de bois fumant de l'opium. C'est vraiment Tintin et le Lotus bleu. Et puis le petit Van assis qui écoute, attention, tu ne te détourneras pas du travail, tu ne tomberas pas amoureux, tu auras bien tes diplômes, sinon tu ne reviendras pas, ça sera pas la peine de revenir, on t'oubliera, enfin des choses dures. Et sur l'arrière-fond sonore de ça, écrit-il, il y a sa mère qui berce les autres frères et sœurs qui sont nés depuis ou qui sont là. Et donc sur le fond de l'injonction du père qui veut que son fils réussisse parce que lui-même aurait aimé partir, il n'a pas pu partir. Donc sur fond de ce regret paternel, il y a la mère qui chante pour bercer. Et voilà, je me suis dit, cet arrière-fond de la mère a dû aussi conformer son oreille physique. Et moi qui ne parle pas cette langue, je veux qu'on l'entende ou je veux la réentendre. Donc je suis venue avec ces berceuses et Pierre-Yves a travaillé à partir de ça. Mais c'est très important aussi de dire, on l'a élucidé ensemble, et c'était très important de pouvoir ne pas se tromper. Ce n'est pas une pièce exotique vietnamienne, c'est la pièce, une pièce d'écart comme la situation des métis ou comme la situation des gens. Tout le monde vient de deux mondes. Donc la France ou l'Europe est, enfin voilà, je suis née là et je suis européenne. Et donc Debussy, par ailleurs, a aussi été une référence, donc le prélude à l'après-midi d'un faune, mais pas seulement. Je venais de mettre en scène Nuage, hein, qui est un nocturne de Debussy, et j'avais dit à Pierre-Yves, écoute, est-ce que t'as pas envie qu'on utilise Nuage? Il avait dit, j'adore Debussy, mais bon, voilà, je vais quand même je vais faire des choses. Donc voilà, cette flûte qu'on entend, c'est aussi la façon de signer l'Europe, peut-être. En tout cas, ça a été une grande finesse de sa part de bien dire attention. On ne va pas, et moi-même, je n'avais pas du tout envie de verser dans Super Saigon la nuit, quoi.
Oui, d'ailleurs, la référence au Vietnam, hein, on la découvre quand on lit ce que vous avez pu écrire de la jeunesse du spectacle. Mais dans le spectacle lui-même, si on le découvre sans rien avoir lu comme ça, il n'y a aucune mention nominative du pays. Enfin, on ne peut pas du tout retracer ce lien-là. Dans ce spectacle, comme dans certains de vos précédents, vos mouvements dansés sont caractérisés par le fait que vous êtes beaucoup au sol, dans des positions d'équilibre parfois, et souvent repliés sur vous-même, je pense, à ce moment du début du spectacle, dans lequel vous ramenez vos deux jambes comme ça contre vous, dans un mouvement qui requiert beaucoup de souplesse, et créer une position à la fois recroquevillée, en même temps élancée, parce que vos jambes, elles sont comme ça dirigées vers le ciel. Comment ce goût pour le travail au sol, Emmanuel Huyn?
Merci de cette question, parce que ça fait longtemps que je ne me la suis pas reposée, ou même de décrire comment les choses regroupées et à la fois étirées. Je pense que c'est une vraie, c'est pas une définition, mais c'est une observation juste. Alors, je me suis beaucoup traînée au sol, tout le temps de Mua, seule dans le noir. D'abord parce qu'on a peur de se cogner. Donc là, je me cogne plus parce que j'ai quand même des fausses-faux qui me permettent de savoir où courir pour pas marcher dans le verre pilé de Casper Teplitz.
Oui, je le précise juste pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, mais Mua, donc, on l'a dit, une grande partie du spectacle se déroule dans le noir, mais vous dansez, on vous entend danser, on entend le bruit que font vos mouvements sur le sol notamment, et quand vous apparaissez peu à peu vers la fin du spectacle, vous êtes aussi chargé de toute cette première partie dans laquelle vous avez dansé. C'était juste pour
Je danse, préciser. Je cours, je marche. Et effectivement, je suis très active. C'est un moment très très actif, cette partie dans le noir. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup, je suis allée beaucoup au sol pour Mua. Et là, cette partie finale, je suis au sol et il y a un travail d'auto-palpation, comme si je découvrais mon corps, qui est une métaphore du pays en fait que je découvre. Et j'ai eu du mal à me lever. Je me suis dit d'ailleurs au moment où j'ai fait Tout contre avec Dimitri Chamblas en 1998, j'avais du mal à me relever. Donc j'ai fait l'effort de me relever, un peu comme l'humanité qui prend son temps. Et c'est vrai qu'il y a un goût pour le sol, il y a un goût pour l'appui, il y a un goût aussi pour le fait d'opérer parfois de façon contradictoire, c'est-à-dire une chose est refermée et une autre chose, c'est ce que vous avez décrit, s'ouvre dans un même corps. Dans le duo Avida Énorme, on avait l'idée de s'ancrer au sol avec une partie, et puis que de l'autre, on tire en même temps. Donc quelque chose de contradictoire qui s'extrait de soi-même. Donc je trouve votre analyse kinesthésique, fort juste.
Il y a aussi tout un travail sur la nudité de votre propre corps de danseuse sur scène, dans ces deux spectacles aussi d'ailleurs. Hein, dans Mua, vous êtes vêtue, quand on vous voit apparaître, d'une sorte de robe de tulle transparente, derrière laquelle on devine, mais vraiment on devine, hein, puisque tout ça se passe dans une lumière qui est très très, comment dire, douce. On devine votre corps nu. Dans Nuée, vous finissez le spectacle non pas totalement nu, mais torse nu. Comment est-ce que vous travaillez cette nudité, en quoi est-ce qu'elle est importante pour vous ou significative?
Je ne me dis pas il va y avoir une partie nue, une partie torse nue. Ça vient en fait dans les... Chaque pièce a son propre récit et ses propres nécessités. La nudité de Mua, elle n'était pas décidée, même si finalement ça fonctionne bien avec on dirait un travail inaugural, un premier travail ou un travail... qui s'est ancré dans le pays du père, et voilà, comme une naissance-renaissance. Mais ça ne s'est pas fait comme ça pour, par exemple, Mua. Nous étions avec Yves Godin à la Bastille, au théâtre de la Bastille, rue de la Roquette, pour faire des essais dans le noir. Et puis, on a cherché avec qu'est-ce qui apparaissait le plus tard possible, avec le minimum de lumière, c'est-à-dire minimum c'est 1%. 1%, on voit rien si on met pas quelque chose en face. Si on met 1%, on ne voit pas de faisceau. Mais si on met un corps en face, c'est ce qu'on fait dans Mua.
À Mua, c'est un terme joli pour décrire le lien entre les deux spectacles.
Dans Mua, eh bien si mon corps est en face, mon corps réfléchit quelque chose. Donc la nudité est venue parce que j'ai essayé avec un académique, enfin un collant chair, et en fait tout de suite, c'était trop fort. Alors que si on est nu, la peau, eh bien, elle reflète quelque chose, elle renvoie quelque chose, mais on peut avoir une intensité très basse. Donc, c'était la question du sous-régime qui nous intéressait, qui m'a amené à être nu. Puis, je suis restée nue. Et puis, sur la deuxième partie, ce voile dont vous parlez, pour moi, c'est une paupière de corps. Et c'était, voilà, c'était la chose la plus fine. Concernant la demi-nudité de Nuée, elle a aussi une histoire, et pas qu'une histoire du costume que m'a proposé Thierry Grapote dans cette création. C'est que au moment, après avoir, je dirais, accumulé, monté mes différentes formations dans ce classique, buto, et puis avoir mélangé ça avec le handball de mon enfance, et puis avoir mélangé ça tout d'un coup avec la mitraillette, qui a sans doute tué plein de civils ou plein de militaires au Vietnam. Il y a dans la partition aussi de Pierre-Yves des sons de bombes très très lointaines, hein, des sons d'avions. Et donc, d'une certaine façon, je tombe. Et là, j'avais très envie, nous avions très envie avec Gilles, qu'il y ait aussi, on avait lu pas mal de choses sur les accords de Genève, sur le fait de se rendre, c'est-à-dire de to surrender, de lever les mains et de pas savoir si on va mourir ou vivre. Et donc ça, je voulais vraiment passer par un moment surrender, se rendre. Et finalement, l'ultime humiliation quand on se rend, ben c'est d'être nu, quoi. Mais d'être nu, je veux dire, de se dévêtir, de ne plus rien, de ne plus pouvoir garder une forme de pudeur. Donc comme tout le monde, j'ai vu beaucoup d'images de la guerre, et c'est vrai que les femmes, elles sont souvent, les choses sont arrachées, les hommes sont en slip.
Il y a cette petite fille nue aussi qui court pour faire le napalm.
Oui, et donc ça, c'est vrai que cette image-là, à laquelle je n'avais jamais pensé, quand je me suis trouvée lors de la première, le 15 novembre 1995, au Théâtre Contemporain de la Danse, à lever mes bras sur la première demi-apparition, ça y est, j'ai vu, et ça, pourtant on a fait des répétitions, mais parce qu'il y avait spectateurs, parce qu'il y avait connivence, parce qu'il y avait adresse, je me suis dit, mais cette image, bien sûr, fait partie de notre culture commune à tous. Et aujourd'hui, on en parle, mais je n'ai jamais pensé faire la petite fille dont le dos était cramé par le napalm. Donc, dans Nuée, quand, après m'être effectivement battue, entre guillemets, entre mon corps buto, les jambes arquées de mon père, le handball de Châteauroux, quand je fais l'avion et que je tombe, quand je suis napalmée aussi, je me rends. Et donc, je mets les bras en l'air et je, je suis torse nu.
Quand on travaille un solo, il y a une difficulté propre de cet exercice, j'imagine, pour la chorégraphe que vous êtes, c'est que vous ne pouvez pas vous voir vous-même danser. Cette dimension-là, comment vous faites pour la travailler? Est-ce que vous demandez à des collaborateurs d'être votre regard extérieur sur vous-même dansant? Comment vous résolvez la difficulté?
Ça, c'est vraiment une question, et je dirais que tant pour Mua que pour Nué, il n'y a pas eu d'œil extérieur qui ne soit pas aussi aux affaires d'autre chose. C'est-à-dire que je me suis souvent dit, zut, il manque quelqu'un. Et d'ailleurs, on l'a vu à la reprise de Nué, il nous a manqué quelqu'un qui garantisse ce à quoi on avait dit oui à un moment comme forme. C'est difficile de retrouver, d'être d'accord sur les tops, et surtout d'être d'accord sur exactement ce qu'on avait dit être juste. Donc l'œil extérieur, il est vraiment important, mais on n'a pas toujours, on va dire, les moyens d'avoir une personne en plus. Déjà, un solo où on est quatre, c'est énorme. Donc, c'est bien normal d'écouter votre administratrice Amélia Serrano qui vous dit « On va pas y arriver si on dit qu'on est cinq ou six en tournée. Ça ne marchera pas. » Et donc, il faut cette réalité. Donc, Yves Godin, je dirais, à la manette du noir dans Mua, a été le garant de l'objet, voilà, par son œil. Et moi, j'adore faire confiance. Donc, je n'ai jamais vu la pièce que je danse. Il y a eu des jeunes femmes qui m'ont aidée, qui se sont mises nues. Et en même temps, Yves me disait, elles n'ont pas la même carnation, elle est plus blanche.
Tu jouais votre doublure, hein, c'est ça, en
oui,
quelque sorte.
Donc, Yifeng Li, par exemple, qui est taïwanaise, mais beaucoup plus fine, beaucoup plus menue, et très blanche, très chinoise. Yves me dit, non, mais oui, mais non.
Ça ne marche pas
tout
à fait.
Elle est plus blanche, toi, tu es plus jaune. Et puis, ton corps est totalement déformé différemment. Donc j'écoute surtout ce que les spectateurs me disent, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est mais j'ai vu ça, mais j'ai pas vu ça, mais c'était incroyable. Donc j'adore me faire le film de Mua par ceux qui l'ont vu. Et concernant l'œil extérieur de Nué, c'était le rôle initial qu'il a tout à fait tenu de Gilles Amalvi, dramaturge, donc d'essayer de guider le sens, de nous aider à guider le sens, de nous dire ce qu'il voyait. Mais au bout d'un moment, on a décidé de mettre du texte visible sur scène, et donc il a lui-même été pris par la production de texte et de comment il apparaissait. Donc il y a toujours un moment où on ne sait pas ce qu'on fait, et finalement j'adore. C'est-à-dire que déléguer son autorat à un certain point à des collaborateurs en qui vous avez confiance, c'est aussi très bon.
Le texte, c'est un élément en effet très important de ce spectacle. Il prend la forme sur scène d'inscription dans une sorte de petite écran très fin qui est disposé en fond de scène et sur lequel des phrases défilent un peu comme des sous-titres. Prend souvent la forme d'une adresse. Par exemple, j'ai passé beaucoup d'années à redresser ces jambes arquées que tu m'as léguées. Une autre phrase un peu plus loin dans le spectacle. Toi dont l'être flotte, dénoué du dedans, toi qui ne pèses plus. Phrase extraite d'un flot comme ça qui défile. Comment est-ce que vous l'avez travaillé ce texte et comment vous avez travaillé le lien entre ce texte et ce qui se passe par ailleurs sur scène, parce que le texte ne fait jamais office de commentaire ou de sous-titre, justement, de ce qui se passe sur le reste du plateau.
Merci aussi pour cette question, parce qu'elle est cruciale dans Nué. Et encore une fois, ça peut exemplifier une façon de travailler, mais de donner aux collaborateurs, là, en ce qui concerne cette partie texte, c'est Gilles Amalvi, mais la question de la lumière, puisque le texte est de la lumière sur le LED, ça impliquait aussi beaucoup Cathy Olive et la lumière, et aussi le son à ce moment-là de Pierre-Yves. Donc il y a vraiment quelque chose d'organique et qui s'édite ensemble. Alors, les textes sont de Gilles, ils proviennent soit de son écriture de poète à partir de tout ce qu'on s'est dit, de ce qu'il a compris, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend. Et puis, ce sont aussi des impro-mémoires débriefées, des rushés, où, les gens, j'ai passé des années à redresser mes jambes, les jambes que tu m'as léguées, je l'ai prononcé, je sais plus si c'est à Besançon ou à Grenoble, ou, donc il y a des choses qui proviennent vraiment de ce que j'ai dit, et puis d'autres qui sont sa signature. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé sa façon de diffuser le texte avec rythme, c'est-à-dire que parfois les choses s'écrivent avec un tempo et un rythme, comme une sorte de slam ou comme une sorte de rap, où il y a une espèce de all-over, c'est-à-dire l'écran LED est rempli, et puis c'est plutôt du retrait, on enlève le trop-plein, et puis on découvre Mekong, pied, père, amant. Donc j'aime beaucoup comment ils ont cherché avec Cathy à donner, à faire apparaître le sens rythmiquement, musicalement, en faisant apparaître, disparaître.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nanny, nanny. I'm ready, my lord.
Un très grand merci Emmanuel Huyn d'avoir été avec nous pour parler de ce spectacle Nuée, votre dernière création, à voir demain et vendredi à la Maison de la Musique de Nanterre et puis en janvier à Annecy, à Armentières, à Nantes, en avril à Toulouse également. On renverra sur le site de l'émission vers la liste complète des dates de la tournée du spectacle. À noter aussi l'exposition De Vertical, Devenir Horizontal, Étale qui s'est ouverte hier et se poursuivra jusqu'au 13 mars au Carré d'Art de Nîmes, le résultat du travail que vous menez depuis quelques années avec Jocelyn Cotensin, dans lequel vous vous intéressez aux territoires urbains à partir de gestes et de mouvements. Par ailleurs, ne manquez pas, vous qui nous écoutez, lundi 29 novembre prochain, la tenue ici à la Maison de la Radio et de la Musique du premier festival Et Maintenant, une journée de rencontres, d'ateliers, de débats ouverts à toutes et à tous pour réfléchir au monde que nous souhaitons pour demain. Énormément de réjouissances au programme. Allez découvrir le programme complet sur le site etmaintenant-festival.fr. L'entrée est libre et gratuite, il suffit simplement de s'inscrire. À la prise de son ce soir, c'était Florent Bujon, à la réalisation Félix Le Vaché. Un grand merci également à l'équipe de Par les temps qui courent, Lou Kevauvillé, Jeanne Aléos, Marianne Chasseur et Sherazade Sirage. Pour réécouter l'émission ou s'abonner à son podcast, c'est toujours sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker. We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker. Hey, nanny, nanny.